Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Je suis en compagnie de Vincent Ducomet, qui est venu parler de la prochaine festivité qui va avoir lieu à propos de la laine. C'est d'ailleurs la fête de la laine qui va avoir lieu du 11 au 12 février à Cray, à la salle Moulinage et Coloriage. Bon, je dis d'entrée de jeu, c'est une entrée libre et c'est ouvert de 10h à 19h. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Donc tu es venu nous parler de cette fête de la laine qui a lieu depuis un bout de temps. Est-ce que tu sais à peu près depuis quand ça a lieu ?
Non, je me rappelle plus très bien depuis combien de temps. Moi, je suis adhérent à cette association seulement depuis un an, mais je suis souvent allé à la fête de la laine auparavant, mais je crois que je dirais 15 ans ou 20 ans peut-être.
Est-ce que tu en connais un petit peu plus sur la Toison d'Art ? Qui est à l'origine de cette association et de ce projet ?
La Toison d'Art, c'est un groupement de créateurs, beaucoup de créateurs textiles, qui ont tous un peu un souci d'être liés avec les producteurs. Il y en a qui sont également producteurs, beaucoup de producteurs de mohair, par exemple. Il y a aussi, par exemple, un producteur d'angora, donc il élève des lapins angora et voilà, il vend des pulls, des chaussettes, etc. Donc toutes sortes de gens qui sont des petites structures. Il y a également des filatures, mais des toutes petites filatures, comme la filature de Chantemerle, la Briançon, qui est une émanation de Longomaille, l'association Longomaille. Il y a Ardelaine aussi. Ardelaine, c'est peut-être pas partie de la Toison d'Art, mais elle vient à la fête. Voilà, tout ça, c'est des gens qui sont intéressés à des niveaux différents, soit la production, soit la transformation. La filature, c'est un peu le gros du truc, quoi, c'est le fabriquer le fil. Et puis, il y a les gens qui sont plutôt dans la création, le tissage, même carrément des artistes qui font des œuvres textiles. Il y a des gens qui font du feutre, il y a beaucoup de techniques différentes.
Alors, mais pourquoi ont-ils éprouvé le besoin de faire une fête de la laine ? Est-ce que c'est une filière qui a besoin de soutien ?
C'est une filière qui est quasiment en voie de disparition, on va dire. Pour citer un exemple, beaucoup de gens connaissent Ardelaine, par exemple, qui est une structure qui a été remontée dans les années 70. La filature de Chantemerle, pareil, elle a été remontée des années 70. Donc par des gens, toutes ces filatures, ces petites filatures de région, elles fermaient toutes. Et puis il y a eu cette époque aussi où les gens se mettaient à s'intéresser au métier du tissage, du feutre. Donc un côté à la fois créatif et artisanal, et un peu babacool, on va dire, avec des gens qui retournent à la terre, qui élèvent des animaux et qui ont envie de faire quelque chose avec la laine de leurs animaux, quoi. Donc il y a un peu de tout dans ce style-là, quoi, je dirais.
On parlait de filature, mais on peut aussi parler de l'approvisionnement, à savoir d'où vient la laine des moutons. J'ai entendu dire que beaucoup de laine venait de Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a encore une filière laine en France ?
En France, la filière laine, elle est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grosses industries. Alors voilà, dans la laine, il y a plusieurs choses. Et dans la fête de la laine, il n'y a pas que de la laine. Dans la fête de la laine, il y a aussi de la soie, il y a du cachemire, par exemple, il y a du mohair, il y a de l'angora, il y a... Voilà, toutes les fibres naturelles sont admises. Mais c'est vrai que la laine, c'est le gros du truc. Alors la laine vient des brebis. Il faut savoir qu'en France, par exemple, la laine ne vaut plus rien. Pour l'éleveur de brebis, elle est payée les bonnes années 1 euro le kilo, pour donner une idée, quoi. Quand c'est de la très belle laine.
Et ce qui ne représente pas le coût de la tonte ?
Non, le coût de la tonte est plus qu'un euro le kilo. Et les brebis portent en moyenne entre 1 et 2 kilos de laine brute. Quand l'éleveur peut amortir le coût de la tonte avec sa laine, il est content. Alors cette laine-là, c'est une laine qui ne vaut pas grand-chose sur le plan international, parce que la filière laine s'est structurée à très grande échelle. C'est en Chine que se trouve maintenant presque toute l'industrie lainière, quoi. Quand tu parles de Nouvelle-Zélande, ces gens-là se sont complètement adaptés à ce type de marché, parce qu'ils ont des très grands élevages. Un éleveur là-bas, il a 5 000, 10 000, 20 000 brebis. Et ils se sont dirigés vers la production... Alors en Australie, surtout, ils se sont dirigés sur la production de laine. La Nouvelle-Zélande, c'était plutôt la viande et la laine restait un sous-produit. Alors qu'en Australie, c'est le contraire. C'est la laine qui est le produit noble. Et donc, une ferme produit d'énormes quantités de laine. Elle les négocie, si la laine est de belle qualité, elle les négocie au mieux parce qu'elle a un gros lot qui va intéresser un fabricant. En France, quand les ramasseurs de laine ramassent des lots, ils ramassent 500 kilos par-ci, une tonne par-là. Et donc ça fait jamais une quantité qui intéresse un industriel, si belle que soit la laine en fait. Moralité, il ne payera pas cette laine bien chère. Donc au fil des années, les éleveurs français se sont totalement désintéressés de la production de laine, quoi. Donc ils ne prennent plus attention ni à la récolte, c'est-à-dire que les laines françaises sont souvent mal récoltées, il y a de la paille, il y a du foin, il y a du caca, il y a tout ce qu'on veut dedans. Il n'y a plus de génétique, on ne recherche plus à produire une laine de qualité. Et il y a des techniques d'élevage aussi qui font qu'une laine peut être de qualité, on ne les applique plus, on s'est complètement focalisé sur la viande et un peu le lait, quoi. Donc les gens qui font partie de la Tosendar et puis tous les gens qui travaillent sur la laine à petite échelle comme ça, c'est des gens qui font ça par pure passion en fait. Il y a des gens autant qui vont filer leur propre laine et puis fabriquer des couvertures et puis prévendre leurs couvertures sur le marché par exemple.
Donc on a affaire effectivement, comme tu le disais, à des artisans, des petites structures qui sont prêts à travailler sur des petites quantités. Donc jamais on ne trouvera jamais les œuvres dans la grande distribution, ce qui n'est pas d'ailleurs un mal.
Ouais, c'est impossible, quoi. On fabrique tous à très petite échelle, quoi, c'est sûr.
Tu disais que la laine n'était pas forcément de très bonne qualité. Mmh. À partir de laine de mauvaise qualité, on peut faire des produits de bonne qualité, quand même ?
Non, c'est clair que si tu veux faire un produit de belle qualité, tu dois inverser ta tendance. Hein. Il faut à nouveau prêter attention à ton produit. Donc, tu organises ton chantier de tonte de manière à ce que la laine soit propre. Tu fais attention à ce que tes animaux soient correctement nourris pour produire une laine de qualité. Il faut savoir que chez la brebis, je pense que chez les chèvres qui produisent de la laine, c'est la même chose. La laine, c'est la première partie qui souffre chez un animal quand il y a une souffrance quelconque, un stress. Donc, au point de vue métabolique, c'est la laine qui va souffrir en premier. En deuxième, ce sera le lait. Et en troisième, ce sera la viande. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui accroche, par exemple la gestation d'une brebis qui porte deux agneaux, si elle n'est pas super bien nourrie, elle va tirer sur ses réserves et pof, ça va se voir dans la laine, il va y avoir un endroit où la fibre est plus fragile, elle est moins jolie, elle est moins douce. On résout ça de deux manières différentes, soit en prêtant beaucoup d'attention aux animaux pour avoir à la fois une production de laine et à la fois une production de viande ou de lait, ou alors en se spécialisant entièrement sur la laine, ce que moi j'ai choisi comme tactique, quoi. C'est un peu ce que font beaucoup les Australiens, quoi.
Et donc c'est un petit peu un des objectifs de cette association, c'est de promouvoir donc la laine et peut-être même donc l'approvisionnement. Alors ils essayent de faire en sorte que les éleveurs se réintéressent à ce problème de la production de laine.
Ouais. Il y a manifestement un petit mouvement, quelque chose d'assez léger à toute petite échelle, hein, mais il y a des éleveurs soit individuellement qui se réintéressent à leur laine et donc qui vont, comme moi par exemple, hein, qui vont essayer de retrouver des gens compétents pour filer leur laine, la laver, la carder, la filer et ensuite faire du tissu et ensuite des vêtements. Soit c'est eux qui le font, soit ils le font faire à des gens qui... Il y a encore des gens qui ont travaillé dans l'industrie textile, notamment dans la Loire, par exemple, c'est pas très loin d'ici. Cette industrie, elle a disparu, mais les gens, les compétences restent. Il y a aussi des machines qui restent, donc il y a des gens qui travaillent à ça. À Cordéac, pas loin d'ici, il y a une petite structure qui s'est montée ces dernières années pour ramasser différents types de laine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande variété dans la laine. Il y a des laines grossières, des laines fines, des laines de couleur, des laines blanches. Et que toutes ces variétés qui, pour l'industrie, la grosse industrie, sont un capharnaüm, quoi, ils ne peuvent rien en faire. À petite échelle, on peut les valoriser en utilisant les qualités propres à chacune d'elles, quoi. Voilà, donc il y a des individus isolés, il y a des petites structures comme à Cordéac. Il y a aussi, par exemple, un groupement, je ne sais plus s'ils viennent cette année, ils étaient venus l'année dernière, un groupement d'éleveurs des Alpes-Maritimes qui ont imaginé de faire fabriquer des tapis avec la laine de leurs brebis. Ils ont des brebis qui ont une laine très grossière, qui traditionnellement était bonne à faire des tapis. Et qui donc ne valait plus rien parce que l'industrie du tapis, elle n'existe plus chez nous. Et donc leur idée, ça a été, puisqu'elle est bien pour faire des tapis, on va refaire des tapis. Ils ont contacté des gens en Sardaigne qui font encore des tapis, qui travaillent une laine un peu du même type. Ils ont eu une idée assez originale, c'est d'utiliser des motifs qu'on trouve dans la vallée des Merveilles, dans les Alpes-Maritimes, donc chez eux, quoi, et qui sont des gravures rupestres. Et donc, c'est les motifs de leur tapis, c'est ça, quoi. C'est des motifs qui datent du néolithique, quoi. C'est très beau, c'est très simple, c'est assez épuré. Voilà, ils ont eu cette idée-là. Ils ont aussi eu l'idée de faire des vêtements avec la laine de meilleure qualité, la laine mérinos. Voilà, il y a plein de petits mouvements qui se dessinent comme ça, de la part d'éleveurs, par exemple, qui en ont marre de jeter leur laine ou de la brûler. Il y a des régions, moi cet été j'étais dans le Pays Basque, et bien là-bas la laine des brebis est une laine très grossière, qui serait bon que pour faire des tapis en fait. Et alors maintenant on parle d'isolant. Alors c'est un peu les nouvelles idées, mais pour isoler des maisons, il faut retraiter un peu la laine pour faire de l'isolant.
Parce que sinon il peut y avoir des petites bébêtes qui tombent du plafond après.
Des mythes.
Vincent, on va écouter une petite chanson sympathique qui est forte à propos puisqu'il s'agit du poil de Java qui extrait de leur disque Hawaï sur scène et qui donc est forte à propos parce que tout simplement la laine c'est quand même du poil.
Le poil, chanson réaliste, parole Jean-René Côte-Simon, musique Michel Topin. Musique. Chanson engagée. Putain, ça m'a emmerdé. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le poil. Au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. L'argent rentrait dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté, un poil de l'épouser. Le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture en rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, c'est je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin. Craqué dans les moindres recoins. Coin coin, je voulais pas finir comme fourniture. Mon perruque couvre sa chaussure. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barre, ça m'horripile. Je suis celui qu'on torture en rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. Bien trop malade, j'ai dû partir. Hey, on aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal. Dans une communauté au Népal, j'ai fondé mon paradis fiscal. Sur une baba coulant sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs, je serai de retour. En 2069, poil aux dents.
Donc on va revenir un petit peu à cette fête de la laine. Il y a effectivement, donc, comme tu le disais, un certain nombre de petites initiatives individuelles qui font qu'on a quand même, d'après ce que je vois, plus de 50 exposants de gens qui se sentent concernés par cette filière. Donc tu disais majoritairement la laine, mais quelques autres fibres. Et donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce qu'on pourrait voir dans cette fête de la laine ?
Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a des choses que je connais mieux. Donc, c'est un peu ce dont je viens de parler, c'est la laine de brebis, travaillée de manière traditionnelle. Et puis, on fait des vêtements avec. Et puis, voilà, c'est pour s'habiller. Et puis, il y a des gens qui sont plus dans une démarche artistique, en fait, qui vont proposer des vêtements soit tissés, soit en feutre. La technique du feutre, c'est pas tisser, hein. C'est quelque chose qui fait appel à de l'eau chaude et du savon pour, en fait, la fibre de laine, c'est un poil plein d'écailles qui, quand il se trouve dans l'eau, ces écailles s'écartent. Et donc, si on travaille mécaniquement la laine dans l'eau, elle s'en mêle. Et c'est ça qui fait du feutre. C'est pour ça que les pulls, quand on les lave dans l'eau chaude, après, ils réduisent. Parce qu'en fait, la laine se tasse sur elle-même, quoi. Donc le feutre, c'est une manière de contrôler ce phénomène pour faire des vêtements qui vont être d'une seule pièce. Il n'y a pas de couture. Il y a eu tout un mouvement de création avec des formes, des couleurs, des trucs assez étonnants, quoi, toutes ces dernières années. en tissage traditionnel, c'est pareil, ça joue beaucoup aussi sur les couleurs. Ah ouais, il y a pas mal de gens qui sont dans la teinture, notamment la teinture végétale, là, dans les gens qui exposent. Il y a même des ateliers, je crois, pour les enfants. Teinture végétale ou teinture chimique aussi. Il y a des gens dans la région qui font des teintures qui ne sont pas végétales, mais qui sont faites artisanalement et avec un tel sens de la couleur, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. On peut vraiment trouver des belles gammes de couleurs là-dedans, quoi. Moi, je crois que c'est une manifestation assez exceptionnelle au niveau de la diversité qu'elle propose, quoi. Je crois que les gens qui s'intéressent à cette matière, ils risquent d'être étonnés de voir qu'il y a autant de gens qui font des choses différentes avec ça, quoi.
J'ai vu aussi que dans le programme, c'était marqué animation, démonstration et atelier enfant. Donc un peu d'atelier enfant, tu en as parlé, avec les plantes tinctoriales.
Ouais.
Mais est-ce que tu es un petit peu au courant de ce qui pourrait être proposé comme animation ? Par exemple, comment on file la laine ?
Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient avec des rouets. Et donc, qui montre comment on file la laine. C'est un geste très, très ancien, quoi. On file avec un fuseau. Ça, c'est la méthode la plus ancienne. Donc, un simple bout de bois qui tourne et le fil s'enroule sur lui-même. Et puis, il y a le rouet qui est déjà une forme un peu plus évoluée. Les gens vont montrer ça aux gens qui viennent à l'atelier. Donc, il y a la teinture. Il y a aussi le feutre. Le feutre, c'est quelque chose qui se prête très bien à ce genre de pratique. Parce qu'on peut repartir avec un petit objet qu'on a fabriqué, un objet simple, une balle par exemple pour des enfants faite en laine. Du tissage, et oui, il y a du tissage. Il y a une personne qui va venir avec son métier à tisser, et on peut travailler dessus. Et puis, il y a une grosse exposition que je vous engage à aller voir, qui est proposée par l'association Atelier Laine d'Europe. Donc l'atelier, c'est une association internationale qui est basée à la filature de Chantemerle, à Briançon, et qui propose de mettre en réseau tous ces gens qui sont passionnés par la laine et les fibres naturelles dans toute l'Europe. Donc elle propose une exposition avec les différentes races de brebis, avec des échantillons de chaque laine, et des échantillons de produits qui ont été fabriqués avec cette laine et qui sont caractéristiques de ce qu'on peut en attendre. Par exemple, on parle souvent de la laine mérinos, parce que la laine mérinos est la plus fine. Donc elle se prête surtout au tissage pour faire des vêtements à mettre à même la peau, des choses très douces. Mais par exemple, moi j'élève des bisets par exemple, c'est une laine qui est beaucoup plus grossière, mais qui convient très bien pour faire des vêtements d'extérieur, des pullovers ou des vestes. Il y a des laines encore beaucoup plus grossières que ça, comme celle que je citais tout à l'heure, la laine des brebis brigasques qui sert carrément à faire des tapis. Et puis il y a plein de laines intermédiaires. Avec des couleurs allant du gris, marron, blanc, bise.
Toi, tu as un élevage petit.
Oui.
Un petit élevage de laine. Tu récupères la laine, tu la tonds, en fait. Et ça fait combien de kilos par an ?
Voilà, moi j'ai à peu près 200 brebis. Donc c'est un élevage de taille plutôt petite, ouais, moyen-petit. Et donc je récolte environ 300 kilos de laine par an.
Et tu en fais quelque chose, tu l'utilises ?
Voilà, donc je l'utilise, je la fais transformer par la filature de Chantemerle qui va me revendre soit du fil pour faire du tricot, soit un tissu qui sont assez peu nombreux à fabriquer encore ce type de tissu, ça s'appelle du drap. Donc le drap, c'était très connu autrefois, hein, c'est avec ça que Napoléon a habillé ses armées. C'est un tissu assez épais. D'apparence, on ne voit plus le tissage, en fait, parce que le tissu est passé dans un foulon, qui est un gros appareil où le tissu se déroule dans l'eau. Et ensuite, dans l'eau, il est malaxé entre des rouleaux en bois. Donc ça dure pendant plusieurs heures. C'est de l'eau froide, hein, c'est pas de l'eau chaude, donc on n'est pas dans du feutre. On est dans un travail un peu plus doux de la matière, mais qui va donner un résultat un peu intermédiaire entre le feutre et le tissu, dans la mesure où les fibres de laine sont toutes emmêlées, le tissu devient imperméable, épais. Avec ça, on faisait des cabans de marins, on faisait des capes de berger, on faisait des gros vêtements comme ça. Donc moi, je leur rachète du tissu comme ça. Et puis, je travaille avec une couturière qui a une petite structure qui travaille le coton bio à Riorges, à côté de Roanne. Ça s'appelle C'est Bio la Vie. Et elle fabrique donc sa propre ligne de vêtements. Et puis, elle travaille aussi à façon pour des gens comme moi, des petites structures pour faire des vêtements en laine. Donc, elle fait faire de le tricot et ensuite, elle assemble pour faire des petites vestes ou des pulls ou des bonnets, des écharpes, des trucs comme ça.
Alors, si tu ne faisais que du fil pour faire des pulls, combien de pulls tu pourrais faire avec 300 kilos?
Ouais, en gros, à la louche, hein, 300 kilos de laine brute, ça va faire à peu près 150 kilos de laine lavée, parce que la laine perd la moitié de son poids au lavage. Et avec ces 150 kilos de laine, si on faisait que des pulls, par exemple, on peut compter une moyenne de 1 kilo de laine par pull pour une taille homme moyenne, quoi. Voilà, je ferais 150 pulls par an.
En fait, c'est vraiment une toute petite activité que tu fais par plaisir ou que tu fais parce que tu aimes bien la laine? Quelle est ta motivation?
Bah, disons que ma motivation, elle peut étonner, hein. Donc moi, je suis éleveur de brebis depuis 30 ans maintenant. J'ai produit du lait, j'ai produit de la viande. Il y a quelque chose qui m'a toujours bien ennuyé dans l'élevage, c'est de tuer les animaux. Et que ça soit pour faire du lait ou pour faire de la viande, il faut quand même tuer des animaux. Et donc, je voulais cesser de faire ce genre de choses. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais passer à la laine maintenant. Et il faut savoir que, bon, malheureusement, enfin, je crois que maintenant, c'est su largement, les éleveurs ovins, ils vivent en grande partie grâce aux subventions de l'Europe, de l'État, etc. Ça s'élève à 60-70% quand même. Donc après la production de laine, moi je pense qu'elle peut être comparable à ce que rapporte un atelier viande. Bon, un peu inférieur quand même, un peu inférieur, mais pas de manière épouvantable, quoi. Parce que pour produire de la laine, on dépense moins d'argent que pour produire de la viande. Enfin, dans mon cas, parce que moi je produis pas de céréales, je produis pas de foin, je suis juste berger, quoi, j'élève mes animaux. Donc je dois acheter des choses à l'extérieur pour nourrir mes animaux. Et si je fais une production un peu intensive, comme la viande, je dois acheter beaucoup. Si je fais une production moins intensive, comme la laine, j'achète moins. Donc je fais des économies, je gagne moins aussi, mais je dépense moins. Donc voilà, je suis dans quelque chose de... C'est un peu de la passion, mais c'est quand même mon gagne-pain aussi, quoi.
Ça veut dire que tu ne fais plus que de la laine, tu ne fais plus de viande?
Non, je ne fais plus de viande.
Ah donc tu travailles toute l'année pour récolter 300 kilos de laine brute, et donc 150 kilos de laine raffinée.
Voilà.
Bon, bah, écoute, si tu as des petits besoins, pourquoi pas? Parce que ça fait 150 pulls?
Ben ouais, voilà, c'est pas beaucoup. Hein. Mais avant, je produisais 150 agneaux. C'était pas beaucoup non plus. Hein.
D'accord, mais enfin, c'est bien que tu mettes tes convictions en accord avec ton mode de vie.
Voilà, ça c'était mon but. Hein. De toute façon, j'aurais pas continué à faire de l'élevage s'il fallait que je continue à tuer des animaux. Donc voilà.
Néanmoins, si je peux me permettre, au bout de sa vie, la brebis à laine, on ne la tue pas.
Non, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. On peut aussi produire de la laine en produisant de la viande. On peut faire beaucoup de choses. Mais chez moi, les brebis, elles meurent de leur belle mort.
Et jusqu'au bout, elles vont faire de la laine alors?
Bah ouais. Bon, alors la dernière année, la laine, elle est pas bien belle, donc si elle est récupérable, on la récupère. Sinon, ça m'arrive de pas tondre des brebis qui sont en fin de vie, parce que c'est un gros stress pour la brebis, la tonte. Donc d'abord, elle risquerait d'en claquer d'un coup de froid. Et puis, c'est une laine de mauvaise qualité, donc pas être intéressante pour moi. Et pour le tondeur, c'est une vraie épreuve, parce que tondre une brebis en bonne santé, ça lui prend 2 minutes. Tondre une brebis qui a une laine sèche, où la tondeuse ne rentre pas, etc., ça va lui prendre 10 minutes. Et c'est épuisant pour lui, donc c'est pas très intéressant.
Alors, tu es parti avec une note un petit peu optimiste, pleine d'espoir, en disant que cette filière laine, avec ses petits producteurs, ses petits artisans, connaissait une espèce de recrudescence quand même.
Oui, oui, parce que bon, tous les gens ne sont pas aussi extrémistes que moi, mais y a d'abord des éleveurs pour qui ça peut être un complément de revenu de faire de la laine. Et puis voilà, si on arrive à rentabiliser la laine, mettons à 10 euros, 15 euros le kilo, ça fait toujours quelque chose, quoi. Moi, je pense que quelque part, on peut montrer un peu l'avenir, parce que actuellement, tout le monde se pose pas mal de questions par rapport à l'écologie, la pollution, nanana, tout ça. Dans l'alimentation, c'est facile de trouver des produits bio. Mais dans l'habillement, non, c'est pas facile du tout. Donc la plupart, c'est des produits synthétiques. Donc il y a le coton bio ou le chanvre bio, qui sont des cultures qui reviennent un peu au goût du jour. Mais il peut aussi y avoir la laine, parce que de la laine, on peut en produire à peu près partout. Et ça consomme pas particulièrement d'eau, contrairement au coton. Voilà, et il peut y avoir de plus en plus d'élevages bio qui produiraient de la laine bio. Donc les gens pourraient à nouveau s'habiller avec de la laine. Les vêtements en laine coûtent plus cher que les autres, mais ils sont plus solides que les autres, ils sont plus confortables.
Plus chaud.
Plus chaud. C'est pas aberrant, quoi. Comme ça, ça peut surprendre un petit peu, mais... Par exemple, je vais donner un exemple, un pull en laine, ça vaut une centaine d'euros en pure laine. Peut-être qu'un pull comme ça, il va durer une dizaine d'années. Alors que si on achète un pull en matière synthétique, on peut le payer 20 euros. Je pense que quand on l'aura mis 3-4 ans, ce sera bon à mettre à la poubelle, quoi.
Donc on s'y retrouve.
Ouais, je pense qu'on s'y retrouve.
Quel slogan publicitaire pourrais-tu utiliser pour convaincre des gens de venir à cette fête de la laine ? Qu'est-ce qui est intéressant dans une telle manifestation pour un non-passionné et pour des non-passionnés, hein, je suppose pour les gens qui sont branchés sur la laine et autres fibres naturelles, c'est leur grande messe annuelle peut-être, mais pour le vulgum pecus, pour le citoyen lambda, qu'est-ce qui est intéressant dans ce type de manifestation ?
Enfin, il faut venir avec un état d'esprit un peu ouvert, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose d'éclatant, quoi. Hein. Mais les gens vont être surpris, je pense, de voir tout ce qu'on peut faire avec la laine. Et si tu veux, c'est un peu comme dans la construction, par exemple. Les matériaux naturels, tu en éprouves le bien-être au quotidien, quoi. C'est quelque chose que tu ressens, quoi. Avec les vêtements en fibres naturelles, tu as un peu la même sensation. Tu peux venir là, par exemple, à cette fête, voir, toucher, porter, essayer. Et te rendre compte vraiment de manière directe de l'intérêt de ce genre de matière par rapport à ce qu'on trouve au supermarché du coin, quoi.
Ces petits artisans sont là avec leur stand et donc proposent leurs produits à la vente.
Voilà, chacun a son stand et montre ses produits. Et il est disponible, il est là pour en parler si on veut en parler avec lui, pour vous montrer, pour vous faire essayer. Voilà, donc on peut y passer des heures, quoi.
Très bien, ben Vincent, je te remercie d'être passé. On va rappeler les dates. Hein. Le 11-12 février à Cray, à la salle Moulinage et Coloriage, une entrée libre pour la fête de la laine.
Ouais, on a oublié de parler de juste deux petites choses. C'est les animations qui sont un peu en marge de la fête, c'est-à-dire le manège pour les petits-enfants avec le The Babs Clown, et qui est quelqu'un de très tonique et qui amuse bien les enfants. Et puis, il y a un parc animalier avec des chèvres angora, des brebis, des lapins angora, etc.
Et pas de démonstration de tonte. Pas en cette période de l'année, pauvre petite bébête.
Non. Enfin, pas que je sache, hein, peut-être qu'il y en aura, je sais pas.
Non, mais on va pas quand même leur couper leur manteau alors qu'il fait un froid de canard.
Ah ben non, mais si on les garde à l'intérieur, il n'y a pas de souci, hein, c'est chauffé, la fête de la laine est chauffée.
Oui, mais je suppose qu'on ne fait pas la tonte n'importe quelle époque de l'année.
Non, non, pas du tout à n'importe quelle époque, mais il y a des gens qui tondent les brebis en cette saison, pourvu qu'ils aient des bergeries où la température soit à peu près clémente, c'est faisable.
Dernière petite question avant de nous quitter, une brebis, ça se tond combien de fois par an ?
Oh, une fois en général.
Ah, ben, tu fais pas 3-4 tontes
Ah non, 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 ça arrive deux fois sur certaines races qui ont une laine très longue, mais c'est rare, en général c'est une fois.
Très bien, et merci Vincent.